VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel du lundi 6 novembre 2017. Au sommaire, la Cour suprême du Libéria ordonne la suspension du second tour qui était prévu demain jusqu'à ce que la commission électorale enquête sur les recours. Le vice-président du Zimbabwe, limogé alors que la première dame Grace Mugabe déclare ouvertement vouloir succéder à son mari Robert Mugabe. Aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes refait surface après la tuerie dans une église au Texas qui a fait 26 morts. Et puis le président Donald Trump poursuit sa tournée en Asie durant son passage au Japon. Il a été beaucoup question de la Corée du Nord. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. On démarre par le Mali, où le Premier ministre a annulé sa visite à Niafunké, dans la région de Tombouctou, après une attaque survenue avant son arrivée. Un soldat malien est mort, deux autres blessés, leur véhicule ayant sauté sur une mine. Kassim Traoré.
Le premier ministre malien Ablaye Idrissa Maïga est en tournée au centre et au nord du Mali depuis la semaine passée. Cette tournée a commencé le vendredi 3 novembre 2017 avec l'étape de Mopti. Le premier ministre a inauguré la route du poisson, présidé des cérémonies. Il s'est même rendu à Ténénko pour échanger avec les communautés et les représentants de l'État. C'est le même exercice qu'il devrait poursuivre dans la région de Tombouctou, voir l'état sécuritaire du pays et encourager les administrateurs. Tout cela en vue de la tenue des élections régionales en décembre prochain. Malheureusement, Ablaye Idrissa Maïga n'a pu se rendre dans le cercle de Niafunké. La mission du Premier ministre a été annulée parce qu'un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine à l'entrée du camp à Soumpi, où le gouverneur attendait la délégation gouvernementale. L'incident a fait un mort et deux blessés. Les blessés ont été admis au centre de santé de Niafunké, puis évacués sur Tombouctouville. Des sources militaires nous informent aussi que durant toute la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre 2017, il y avait des échanges de tirs entre les Fama et des bandits armés à Soumpi, une localité située à 20 km de Niafunké, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les mines qui ont fait de nouvelles victimes au Mali ce lundi. Au moins 4 civils ont été tués dans le nord du pays lorsque leur véhicule a roulé sur une mine. L'incident s'est produit à Ansongo, à une centaine de kilomètres de Gao. Un élu local met en cause les djihadistes qui tentent de dissuader la population accusée de donner des informations aux forces de sécurité. Au Libéria, la Cour suprême a suspendu le processus électoral à la veille du second tour de la présidentielle entre l'ancienne star du football, George Weah, et le vice-président Joseph Boakai. Le point avec Yacouba Ouattraogo.
Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à l'examen du recours du candidat Charles Brumskine, arrivé troisième au premier tour. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour suprême, Francis Corpore. Aucune date n'est fixée pour le second tour qui était prévu le 7 novembre. La Cour reproche à la Commission électorale d'avoir fixé une date sans au préalable examiner les plaintes sur des irrégularités et des fraudes. Soutenu par M. Boakai, le Parti de la Liberté de Charles Brumskine réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Selon la Constitution, la Commission dispose d'un délai de 30 jours pour examiner la requête, soit d'ici au 22 novembre. En cas de désaccord avec la décision de la Commission, les plaignants peuvent saisir la Cour suprême dans les 7 jours et celle-ci aura une semaine pour trancher. L'ensemble de ces procédures peuvent s'étendre jusqu'au 6 décembre au plus tard.
Un Britannique retenu en otage au Nigeria a été tué, mais 3 autres ont pu être libérés et sont rentrés chez eux. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères. Les 4 Britanniques, dont un mari et son épouse appartenant à une organisation caritative chrétienne, avaient été enlevés le 13 octobre dans l'état du Delta, où ils étaient engagés dans des actions humanitaires depuis 3 ans. Le vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a été limogé. Son départ forcé intervient au moment où la guerre pour la succession du président âgé de 93 ans, fait rage au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Grace Mugabe est considérée comme l'un des dauphins potentiels de son mari, Robert Mugabe. Hier, elle a annoncé qu'elle était prête à lui succéder. « N'ayez pas peur, si vous voulez me donner votre poste, donnez-le-moi librement », a-t-elle déclaré hier dans un stade de Harare. La famine déclarée pendant plusieurs mois début 2017 au Soudan du Sud pourrait faire son retour en 2018 dans ce pays si rien n'est fait. C'est l'alerte lancée par plusieurs agences humanitaires de l'ONU. Selon un responsable de la FAO, le secteur agricole a été ravagé par les combats. Un photographe de l'agence France Presse a comparu ce lundi devant une magistrate kényane, 3 jours après son arrestation, pour intrusion dans une propriété privée. L'audience a été repoussée à mercredi. Chefou Shiba, 46 ans, a été arrêté vendredi en fin d'après-midi alors qu'il se trouvait dans l'enceinte d'une ferme de la compagnie laitière Brookside, propriété de la famille du président kényan Uhuru Kenyatta. Il s'y était rendu afin de photographier un logo de la compagnie à la suite de l'appel au boycott lancé le même jour par l'opposition kényane contre 3 sociétés dont Brookside.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 5 jours après la fusillade de Las Vegas, un homme a tué 26 personnes dans une église du Texas en plein service religieux dimanche, redonnant de la voix aux partisans d'un plus strict contrôle des armes à feu. Le point avec Anastasie Toudiech.
Le président Donald Trump s'est exprimé depuis Tokyo, au Japon, estimant ce lundi que cette nouvelle fusillade ne pose pas la question de l'encadrement des armes, mais celle de la santé mentale de son auteur. Ce dimanche, un jeune blanc âgé de 26 ans a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau du Texas de quelques 400 habitants. Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église. Après l'attaque, Devin Patrick Kelly a été poursuivi par 2 hommes en camionnette. Sa voiture s'est écrasée sur le bas-côté et le shérif pense qu'il s'est suicidé avec une arme à feu. L'auteur de ce dernier massacre est un ex-militaire de l'armée de l'air. Il est passé en cour martiale en 2012. Il était accusé d'avoir battu sa femme et son enfant et a été dégradé avant d'être renvoyé de l'armée.
Anastasie Toudiech, ça c'est bien des 5 semaines après la fusillade de Las Vegas. Les cercueils des 5 victimes de l'attentat commis la semaine dernière à New York sont arrivés en Argentine, accompagnés par 4 survivants et leurs familles. Après une veillée, ils doivent être enterrés cette semaine. 10 Argentins s'étaient donné rendez-vous à New York pour célébrer le 30e anniversaire de leur sortie de l'Institut Polytechnique de Rosario, un lycée où ils avaient tissé des liens encore solides. Le président américain a entamé au Japon une vaste tournée en Asie qui le mènera dès mardi à Séoul. À Tokyo, il a mis en avant la nécessité d'isoler davantage le régime de Kim Jong-un. Le point avec Dilidico.
Le président Donald Trump a estimé lundi que le temps de la patience stratégique face à la Corée du Nord était révolu, affichant ainsi sa convergence de vues avec le Japon. Il a martelé lors d'une conférence de presse avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, que les essais nucléaires illégaux et les tirs de missiles balistiques scandaleux sont une menace pour la paix internationale. Au programme de la visite figurait aussi une séance de golf, une passion partagée avec le premier ministre japonais. Il a eu une rencontre avec des soldats américains et une entrevue avec l'empereur du Japon qui posait une question de protocole importante, s'incliner ou ne pas s'incliner. Contrairement à son prédécesseur Barack Obama, qui avait été critiqué par les conservateurs américains, pour s'être profondément incliné, M. Trump a opté pour un compromis en inclinant légèrement la tête pour saluer l'empereur.
Un député européen espagnol a affirmé que le cas du président catalan destitué Carles Puigdemont, réclamé à la Belgique par la justice espagnole, alimentait les tensions entre Wallons et Flamands indépendantistes qu'il a traités de collaborateurs avec les nazis. Les Flamands sont indépendantistes et souhaitent le succès du processus catalan de sécession, a dit Esteban González Pons, membre du parti au pouvoir en Espagne. La police russe a arrêté une quinzaine de militants de la gauche nationaliste qui s'étaient rassemblés pour une manifestation non autorisée à Saint-Pétersbourg. La coalition Autre Russie, menée par l'écrivain Édouard Limonov, avait appelé ses partisans à organiser un rassemblement révolutionnaire à l'occasion des commémorations du centenaire de la Révolution de 1917. Le mouvement a néanmoins obtenu une autorisation pour manifester demain à Moscou. Passe d'armes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au sujet du Yémen, déclenché par un tir de missile de rebelles yéménites intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad ce week-end. Les autorités saoudiennes accusent l'Iran d'être derrière ce tir. Téhéran a rejeté les accusations, qualifiées d'irresponsables et de provocatrices, et accusé en retour Riyad de crimes de guerre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Blanche Sanou.
En Tunisie, l'Office national de l'huile annonce une production exceptionnelle avec un possible pic à 280 000 tonnes. La Tunisie, un des principaux pays exportateurs au monde, triplerait ainsi sa production comparée à l'année précédente, a précisé Chokri Bayoud, PDG de l'organisme gouvernemental. Les revenus de l'exportation d'huile devraient dépasser les 2 milliards de dinars, environ 700 millions d'euros. Selon les prédictions du Fonds monétaire international en mission dans le pays l'été dernier, la croissance devrait atteindre 2,3% en 2017. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est en visite à Washington pour assister à la cérémonie de signature de l'accord avec le Millennium Challenge Corporation, MCC. Les États-Unis vont accorder 524 millions de dollars, plus de 262 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces investissements iront à l'éducation, à la formation professionnelle ainsi qu'à des infrastructures de transport. Seulement 2 ans après le lancement de ses activités au Cameroun, la filiale locale de la multinationale nigériane Dangote Cement Cameroun dit contrôler plus de 45% du marché du ciment du pays. Une performance réalisée malgré la présence de 4 multinationales concurrentes que sont les cimenteries du Cameroun, propriété du groupe français Lafarge-Holcim avec 40%, les Turcs de Metsen et les Marocains de Simav qui se partageraient les 15% restants du marché. Dangote Cement Cameroun compte fabriquer au minimum 1 300 000 tonnes de ciment avant fin 2017, consolidant sa stratégie de conquête des marchés du ciment camerounais et sous-régional.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous. Et oui, l'Italien champion du monde en 2006 et vainqueur de 2 Ligues des Champions a mis un terme à sa longue carrière. Pirlo, 38 ans, était parti aux États-Unis à la fin de la saison 2014-2015, conclu sur un nouveau titre de champion d'Italie avec la Juve, le 6e en tout, 2 avec le Milan AC et 4 avec le club turinois. On rappelle que Pirlo jouait avec le New York City Football Club.
Les buteurs africains en forme ce week-end en Europe.
L'Égyptien Mohamed Salah, auteur d'un doublé avec Liverpool contre West Ham, est inarrêtable en Premier League. Avec 7 buts inscrits en championnat, Salah pointe désormais à une longueur derrière Harry Kane, le meilleur buteur de la Premier League. Le ballon d'or africain Riyad Mahrez retrouve peu à peu des couleurs avec Leicester. L'Algérien a inscrit son 2e but de la saison lors du nul 2-2 contre Stoke City. Quant au Burkinabé de Lyon, Bertrand Traoré, il a inscrit l'un des 5 buts lors du succès historique 5-0 contre Saint-Etienne.
West Ham limoge son entraîneur.
Et oui, le club anglais annonce l'éviction de son entraîneur Slaven Bilic en raison des très mauvais résultats de l'équipe, puisque West Ham est actuellement en position relégable, 18e. West Ham qui a encore pris une fessée, je le disais, 4-1, défaite contre Liverpool samedi.
Alors question, qui remportera le prix de l'athlète 2017?
Le Britannique Mo Farah, le Sud-Africain Wade van Niekerk ou le Qatari Moutaz Essa Barshim, tels sont les 3 finalistes pour le prix de l'athlète de l'année 2017 qui sera décerné le 24 novembre par la Fédération internationale à Monaco. Ces 3 athlètes sont en lice pour succéder à la légende du sprint Usain Bolt, parti à la retraite à l'issue de la saison et sacré à 6 reprises entre 2008 et 2016, un record.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
James Harden qui a encore livré un match monstrueux hier soir. Il a inscrit, tenez-vous bien, 56 points, son record en carrière pour permettre 4, aux Rockets de Houston de surclasser Utah 137-110. Boston a réussi une nouvelle performance défensive de haut vol pour contenir Orlando et remporter son 8e match consécutif 104-88. Et ça ne va décidément pas pour les Cavaliers de Cleveland et LeBron James, encore battus sur leur parquet contre Atlanta 115-117.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Niger, 14 établissements privés de santé ont été fermés sur décision du gouvernement. Cette sanction a été prise à la suite d'une inspection diligentée par le ministère de la Santé qui veut s'assurer de la qualité des soins offerts aux populations. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est une décision qui est saluée presque unanimement au sein de l'opinion. Depuis longtemps, les pratiques dans les structures privées de santé sont décriées par la population de façon générale, mais surtout par les structures organisées. Amina Hashimou, présidente du réseau des journalistes sur les questions de santé, et Lawali Adamou, défenseur des droits humains.
On a fait des articles par rapport à la mort d'un enfant, un étudiant. On a fait des articles par rapport à certaines arnaques qu'ils sont en train de faire, l'argent qu'ils prennent. Ils ne soignent pas, ils font des fausses ordonnances. Et par rapport même à la complicité de ces cliniques-là avec les formations sanitaires de l'État. Quand tu veux avoir une prestation, un examen, une consultation, on te trouve mal dans telle clinique. Et finalement, ils ont tué les services publics.
Vous allez voir aujourd'hui les centres de santé qui vont se permettre, dans les villages, même dans les communes, de faire la césarienne, les opérations, de faire même le laboratoire. Un centre de santé n'a pas les moyens pour faire le laboratoire, pour faire l'étude de laboratoire, des analyses. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, en tant que défenseurs des consommateurs, nous sommes dans l'obligation de vraiment supporter et d'encourager ce ministre parce que c'est la vie des personnes qui est en danger.
Au niveau du syndicat des pharmaciens du Niger également, l'on est loin d'un esprit corporatiste après cette décision des autorités. Dr Aliou Mega est le président du syndicat.
En réalité, c'est des pharmacies qui ont été inspectées pendant 3 fois et l'inspecteur n'a jamais trouvé le pharmacien. Bon, le pharmacien doit être disponible pour exercer son art. Là, nous sommes tout à fait d'accord avec le ministère. On est d'accord qu'ils sont en faute. Mais il faut que la loi aussi soit appliquée dans toute sa rigueur envers ceux qui vendent les médicaments qui n'ont pas le droit.
Cette mesure de fermeture des établissements privés de santé a concerné un mélange de cabinets de soins, de cliniques, de laboratoires et d'officines. Dr Idi Ilyasou Maynassara, ministre de la Santé publique.
Un produit qui est censé être vendu à 1000 francs et qui a été commandé à la même source, tu vas le trouver 1000 francs de X pharmacie, 2000 francs de X pharmacie, 1800 de X pharmacie, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas sérieux. Ou un acte chirurgical qui va être fait dans une clinique à 200 000 francs, tu vas le retrouver dans une autre clinique à 600 000 francs, à 400 000 francs. Nous avons donné un délai. Et parce que les textes disent, après une inspection, on peut donner un délai de 3 mois. Toutes ces structures aujourd'hui qu'on vient de fermer avaient eu déjà le délai. On leur a notifié et ceux qui ont, en tout cas, eu à corriger, aujourd'hui, ils sont là. Ceux qui n'ont pas, pensant que, bon, c'est de la blague, là, on a pris des mesures pour fermer ces établissements.
Après cette mesure, le ministère en charge de la santé compte bientôt s'attaquer à un autre phénomène dans le secteur. C'est la concentration dans la capitale des établissements privés de santé. Le Niger compte plus de 350 établissements privés de santé, dont plus de la moitié est installée dans la capitale. Le ministre de la Santé publique compte changer cela, puisque, estime-t-il, les autres populations ont aussi droit à un accès aux soins de santé. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les élections présidentielles, législatives et provinciales fixées au dimanche 23 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante a finalement rendu public hier soir le calendrier électoral. Un calendrier qui est loin de faire l'unanimité parce qu'aussitôt rejeté par les principaux partis politiques de l'opposition. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
du calendrier électoral qui prévoit pour le dimanche 23 décembre 2018 la présidentielle couplée aux législatives et provinciales. André Alain Atundu est le porte-parole de la MP.
C'est la nature de réaction que j'attendrai de nos collègues qui ne partagent pas ce calendrier, c'est de se préparer aux élections qui doivent concrétiser l'aspiration du peuple congolais à des élections apaisées.
Ce calendrier est conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016, annoncé hier Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en pense alors la Conférence épiscopale nationale du Congo qui a assuré les bons offices des discussions qui ont abouti à cet accord? Pour l'abbé Donatien Cholet, le porte-parole des évêques catholiques de la RDC,
on pensait que c'était possible que les élections aient lieu au mois de juin. Puis il y a une équipe d'experts de la CENCO qui a travaillé avec la CENI. On a pensé que ça pourrait être possible au milieu de l'année, août-septembre ou plus tard. Maintenant, le calendrier est sorti avec la date de l'an 3 décembre, si je ne me trompe pas. Eh bien, le délai donné est presque égal au délai qui était prévu, donc presque une année en plus.
Cependant, le calendrier électoral rendu public par la CENI n'est pas du goût de tous. Bien au contraire. Il a d'ailleurs, dès les premières heures de sa publication, été rejeté par l'opposition. Si le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, parle de provocation, Moïse Katumbi évoque, lui, un calendrier fantaisiste qui a pour seul but d'éterniser Kabila au pouvoir. Eve Bazaïba du Mouvement de Libération du Congo, Délice Sanga de l'Envol, tous ont rejeté ce calendrier et accusé Corneille Nangaa de jouer le jeu du pouvoir. Le Rassemblement de l'Opposition, le Front pour le Respect de la Constitution et l'UNC de Vital Kamerhe devaient se réunir ce lundi pour une réaction commune. Réunion avortée faute d'harmonisation. À la société civile, les premières réactions sont également de rejet. Le mouvement citoyen Lucha, lutte pour les changements, appelle à l'application de l'article 64 de la Constitution qui appelle à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et essaie de l'exercer en violation des dispositions constitutionnelles.
La CENI a fait un mélange de la provocation, un déni de la réalité. C'est un défi réellement lancé à la démocratie, au peuple congolais. La CENI a signé finalement qu'elle n'est pas une institution d'appui à la démocratie, elle est devenue une institution de retardement des élections et d'accompagnement de la coalition au pouvoir.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et Kiabadou avec vous dans votre émission interactive. Je vous donne rendez-vous ce lundi à 18h en temps universel sur VOA Afrique. Votre émission interactive sera consacrée à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a révélé que plus de 5 millions d'euros ont été détournés en Afrique de l'Ouest avec la complicité de ses employés à partir des fonds versés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Que pensez-vous de ce phénomène de détournement de l'aide destinée à des nécessiteux? Comment garantir le bon usage des dons envoyés aux ONG? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur voafrique.com.
Au Cameroun, divergence sur les nouvelles mesures visant à résoudre le nombre d'accidents de la circulation. Le plus récent a causé la mort de 15 personnes le mois dernier et le ministre des Transports a suspendu l'agence General Express Voyage dont le véhicule était impliqué dans ce énième drame. Une décision qui n'est pas du goût de tous. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Le directeur général de l'agence General Express Voyage est presque sans voix face aux journalistes. Impliqué dans un accident mortel de la circulation le 23 octobre dernier, General Express Voyage est suspendu d'activité pendant 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Son directeur général accuse le coup.
Je regrette amèrement ce qui nous est arrivé ces derniers temps que le diable a projeté ce malheur sur nous. J'adresse mes sincères condoléances à des familles qui ont été éprouvées.
Au sorti d'une audience entre les promoteurs des agences de voyage et le ministre des Transports, ce dernier est passé à la vitesse supérieure sur le cas de General Express Voyage. Edgar Alain Mbengo, ministre des Transports.
La conduite d'un audit spécifique pour comprendre les causes profondes de la récurrence des accidents hautement mortels impliquant de la société General Express Voyage. Les résultats de cet audit permettront de prescrire les mesures correctrices qui s'imposent.
Cependant, Le maintien de la suspension de General Express Voyage, ajouté à l'audit de cette structure, crée des dissensions. Quelques syndicats de transport ont menacé de faire grève avant de suspendre leur mot d'ordre. Augustin Gankwa, président d'un syndicat de transport, relève que la mesure est contre-productive.
General Voyage aujourd'hui représente 200 bus et a au moins 12 agences sur toute l'étendue du territoire. Et à côté de ça, il y a des activités connexes. Vous pensez à cela? La mesure a été maladroite.
Une prise d'opposition que fustige la Ligue camerounaise des consommateurs par l'entremise de son président, Delors Magellan Kamgeng.
Au lieu de 3 mois de suspension, la Ligue camerounaise des consommateurs a proposé une fermeture définitive. Et ça sera pareil pour toutes les compagnies qui font plus de 2 accidents par an. Cette sortie des syndicalistes que nous avons jugée d'inopportune et de capitaliste et de corporatiste.
Au cours du seul mois d'août 2017, des accidents mortels impliquant des agences de voyage ont fait 117 morts. Un décompte macabre pour lequel on ne saurait exonérer l'État, pense Mubita Yandanga, homme politique et coordonnateur d'une organisation non gouvernementale sur les droits de l'homme.
C'est l'État qui doit veiller à ce que les routes soient faites et de bonne qualité pour que les gens ne puissent pas continuer à faire de nombreux accidents ainsi. L'État a la responsabilité de veiller en sorte que les agents qui sont chargés du contrôle sur les routes fassent leur travail. L'État a la responsabilité de veiller en sorte que, par exemple, les panneaux soient toujours refaits.
Pour les usagers de la route, qui suivent avec beaucoup d'intérêt le débat en cours, les pouvoirs publics doivent contribuer, d'une manière comme d'une autre, à sauver les vies humaines sur les axes routiers du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et on termine par cette nouvelle fusillade qui a eu lieu hier au Texas. Un ancien militaire de 26 ans a ouvert le feu dans une église tuant 26 personnes. Cette nouvelle tuerie pose une nouvelle fois le débat sur la vente et le port d'armes aux États-Unis. Pour une réaction, Claire Morin-Jubourg a joint le professeur Corentin Selin.
Une première réaction d'effroi et de penser évidemment pour les victimes. Ensuite, quand on prend un petit peu de recul pour analyser, on se rend compte qu'aux États-Unis, désormais, c'est sur un rythme quasiment trimestriel, tous les 3 mois et même maintenant, tous les mois, que se produit une attaque par arme à feu meurtrière. Et on note que s'il n'y a pas d'augmentation flagrante du nombre de tueries par arme à feu rapportées à la population américaine, il y a par contre une augmentation incontestable depuis une dizaine d'années, et la tuerie de Virginia Tech, de la mortalité. Ce sont des attaques de plus en plus meurtrières, et on peut faire le lien, même s'il est parfois contesté, avec la prolifération des armes semi-automatiques, qu'on appelle parfois improprement les armes d'assaut, des armes semi-automatiques qui sont impliquées désormais quasiment dans toutes les tueries, que ce soit à Sandy Hook en 2012, que ce soit à Orlando, que ce soit là encore hier au Texas. Et évidemment, on se demande comment des personnes, on le voit hier au Texas, dérangés peuvent accéder aussi facilement à des armes semi-automatiques.
Avez-vous été surpris par la réaction de Donald Trump qui, au contraire, a bien affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un problème de loi sur les armes?
Non, absolument pas. Le président Trump est tout à fait dans la lignée de sa campagne de 2016 et de ses premiers mois de président. Il a été élu sur une ligne très simple, qui lui a valu d'ailleurs le soutien éperdu du grand lobby des propriétaires d'armes, la NRA. En effet, Donald Trump considère que le droit de porter une arme à feu et de posséder une arme à feu pour sa défense est un droit protégé par la Constitution, ce qui est le cas depuis l'arrêt Elod de la Cour suprême en 2008, et que ce droit ne peut être en aucun cas remis en question. Par ailleurs, Donald Trump considère qu'au contraire, il s'en était fait l'écho, on s'en souvient peut-être de manière un peu particulière en France au moment des attentats du Bataclan, il considère qu'au contraire, il faudrait davantage d'armes et pour l'autodéfense des bons citoyens face à ceux qu'il considère, comme dans le cas si présent au Texas, comme des dérangés mentaux qui s'emparent d'armes pour attaquer. Donc une réaction tout à fait conforme de la part d'un président qui a été élu sur une ligne permissive quant aux armes à feu et qui défend le droit non seulement de posséder des armes à feu, feu, mais qui défend aussi leur diffusion dans la société américaine.
C'était Corentin Salin, agrégé d'histoire en classe préparatoire spécialiste des États-Unis. Un élément qui met fin à cette édition, mise en onde par Lionel Gaïma. À la console, il y avait John Dryden. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Dans quelques secondes, retrouvez l'actualité avec Henri Francisque.